Conan Doyle, l'énigme du pont de Thor. Dans un des coffres-forts du sous-sol de la Cox & Co., banque de Charing Cross, se trouve une vieille malle de voyage en fer blanc, portant en évidence sur sa face supérieure l'inscription « John Watson, docteur en médecine, officier de l'armée des Indes » et renfermant une compilation hétéroclite d'un certain nombre de documents, la plupart dédiés aux diverses enquêtes menées par mon ami Sherlock Holmes au cours de sa brillante carrière. Certaines énigmes qui demeurent encore irrésolues à ce jour ne présentent pas grand intérêt. Elles pourraient sans doute intéresser au plus haut degré l'étudiante en criminologie, mais ne présenteraient pour le grand public qu'un attrait modéré, puisqu'elle n'apporte aucun dénouement aux enquêtes dont elle traite. Au nombre de ces énigmes irrésolues figure le cas de M. James Fillmore, qui, après s'en être retourné chez lui pour y prendre un parapluie, n'en ressortit plus jamais. Non moins remarquable est le cas étrange du cutter Alicia, qui, naviguant par tant de brume un matin de printemps, pénétra dans une nappe de brouillard de laquelle coque et équipage disparurent à jamais. Un troisième exemple étonnant concerne Isadora Persiano, la célèbre journaliste et duelliste, qui fut retrouvée ayant perdu l'esprit un matin, le regard fixé sur une simple boîte d'allumettes renfermant un verre qui n'avait jusqu'alors été répertorié par aucun ouvrage de zoologie. Outre des affaires de ce type, se rapportant à des mystères inexpliqués, on trouve des récits secrets impliquant les membres de familles puissantes qui contribueraient sans doute, s'ils venaient à être divulgués, à bouleverser l'ordre social établi par certains milieux. Nul besoin de préciser qu'une telle violation d'intimité constituerait un délit majeur aux conséquences duquel je me refuse à me trouver exposé. Les éléments se rapportant à ces affaires seront d'ailleurs, à présent que mon ami jouit d'un peu de temps pour se consacrer au classement des archives de sa carrière, regroupées et détruites. Une troisième catégorie d'affaires enfermées par ce coffre est celle des écrits qu'il me serait possible de livrer au public si je ne craignais cependant que leur grand nombre ne finisse par porter atteinte à la réputation de mon ami, en donnant à penser que de tels exploits répétés ne seraient en réalité que pures affabulations. J'ai été témoin d'un grand nombre de cette dernière catégorie d'enquêtes. Or, je fus certes absent d'autres, et dans d'autres encore, je n'ai joué qu'un rôle d'observateur si restreint que je ne pourrais fidèlement les relater. L'affaire que je choisis ici de livrer au public est de celles dans lesquelles je fus considérablement impliqué. Nous étions au matin d'un jour d'octobre venteux, et j'observais par la fenêtre, tout en passant mes vêtements, l'arbre du fond de la cour de notre maison, sur lequel les dernières feuilles d'automne se faisaient si rares. Je descendis prendre mon petit déjeuner, me préparant à trouver mon ami dans un état d'esprit morose, tant, comme tous les grands intuitifs, il avait tendance à se laisser imprégner par les éléments climatiques. Je le trouvais au contraire d'une humeur particulièrement gaie et enjouée, par rapport à son tempérament habituel du moins, et terminant son petit déjeuner. « Seriez-vous sur une affaire, Holmes ? » interrogeai-je. « L'art de la déduction serait-il une aptitude contagieuse, Hobson ? » répondit-il. « Je vous ai trop initié à mes méthodes. » « Oui, en effet, je me trouve sur une affaire. Après un mois entier, caractérisé par une absence d'activité désespérante, je reprends du service. Puis-je vous demander de quoi il s'agit ? Oh, n'y a encore que peu à en dire. Mais je vous apprendrai tout ce que je sais dès que vous aurez fait honneur aux deux œufs durs qui se trouvent ici, en place des deux œufs à la coque demandés et préparés par notre nouvelle cuisinière. Leur cuisson prolongée n'est sans doute pas sans rapport avec l'exemplaire du Family Herald qui se trouvait hier posée sur le guéridon du hall d'entrée. Si simple que puisse paraître la cuisson d'œufs à la coque, elle nécessite une attention toute particulière et ne souffre aucune distraction. Il semble que les romances relatées par ces excellents périodiques soient directement responsables de la cuisson prolongée de nos œufs de ce matin. Un quart d'heure plus tard, la table avait été desservie et nous nous trouvions assis l'un en face de l'autre et Holmes sortit d'une lettre de sa poche. Vous avez sans doute entendu parler de Neil Gibson, surnommé le roi de l'or, me demanda-t-il. Ah oui, vous voulez parler du sénateur américain? Eh bien, il fut un temps, en effet, sénateur de l'un des États de l'Ouest, mais il est plus connu pour être un magnat de l'or minier. Oui, j'ai entendu parler de lui. Il a dû résider sur le sol d'Angleterre durant un temps, car son nom me semble extraordinairement familier. Oui, il s'est porté acquéreur d'une importante propriété dans l'État du Hampshire, il y a de cela 5 ans. Peut-être avez-vous entendu parler de la mort tragique de son épouse? Oh, bien sûr, je m'en souviens à présent. Voilà à quelle occasion j'ai lu son nom dans les journaux. Ben, je ne me souviens plus des détails exacts de l'affaire. Holmes désigna de sa main une petite pile de documents posée sur une chaise. Si j'avais su que j'aurais un jour à m'occuper de cette affaire, j'aurais plus soigneusement préparé ma documentation en découpant régulièrement et sans exception les entrefilets des journaux qui étaient consacrés. Je n'en possède ici que quelques-uns. Le problème qui se pose est que cette affaire, bien qu'étonnamment sensationnelle, m'apparaît à prime abord présenter aucune zone d'ombre. Bien que tous s'accordent sur la personnalité extraordinaire de l'accusé, les preuves de sa culpabilité sont nombreuses et en font une évidence. C'est du moins le point de vue qui fut adopté par le jury du procureur et les agents de police qui furent chargés de l'enquête. L'affaire est à présent renvoyée devant les assises de Winchester. Je crains que ce ne soit une cause perdue d'avance. Je pourrais peut-être verser de nouveaux éléments à l'enquête, mais il n'est pas en mon pouvoir de dissimuler ou de modifier ceux qui sont déjà connus. En l'absence de nouvelles sensationnelles découvertes, je ne crois pas que mon client soit en mesure de s'attendre à la clémence du jury pour l'accuser. Votre client? Oui, oh, j'ai oublié de porter à votre connaissance le plus important. Je copie votre fâcheuse habitude de commencer le récit par la fin. Vous feriez bien de prendre connaissance de cette note. Il me tendit une lettre rédigée d'un trait de plume assuré qui résidait en ces termes. Claridge Hotel, le 3 octobre. Cher Monsieur Holmes, je puis me résigner à abandonner la meilleure femme que Dieu ait créée sans tenter l'impossible pour la sauver. Je ne puis expliquer comment tout cela s'est passé. Bon, j'en suis dans l'incapacité la plus totale, mais je sais en mon fort intérieur que Miss Durbar est innocente. Vous avez eu connaissance des faits. Comment aurait-il pu en être autrement? L'affaire a été au cœur de tous les bavardages du pays, et jamais une voix ne s'est élevée pour la défendre. Cette injustice me rend fou. Miss Dunbar aurait été incapable de faire du mal à une mouche. Je viendrai à 11 heures demain matin. J'espère que vous pourrez dissiper les ténèbres qui nous entourent. Peut-être sais-je quelque chose dont j'ignore l'importance. Toute mon aide et ma reconnaissance vous sont acquises si vous pensez pouvoir la sauver. Je m'en remets à vous, dont la renommée n'est plus à faire. Bien à vous, G. Neil Gibson. Mais vous voilà informé, dit Sherlock Holmes, en vidant les cendres de sa première pipe matinale et en la bourrant à nouveau. L'auteur de cette lettre est le gentleman que j'attends. Vous n'auriez que trop peu de temps avant son arrivée pour prendre connaissance de toute l'histoire par la lecture des différentes coupures de journaux ici présentes. Permettez-moi de vous la résumer afin de vous permettre de saisir pleinement le sens des précisions que nous apportera notre client. Celui-ci est l'un des financiers les plus puissants au monde et à ce titre un homme de caractère par lequel il se laisse parfois emporter. Il fut marié à une femme qui fut victime d'une tragédie et de laquelle je ne sais rien si ce n'est qu'elle n'était pas de toute première jeunesse. Fait d'autant plus regrettable que l'éducation des jeunes enfants, au nombre de deux, avait été confiée à une gouvernante d'une grande fraîcheur et d'une grande beauté. Voilà ce qu'on peut, en guise d'introduction, dire des trois personnes mêlées à cette affaire. La scène de la tragédie se déroula au sein du domaine chargé d'histoire du vieux et grand manoir qu'elles habitaient. Quant à la tragédie elle-même, voici ce que nous pouvons en dire. L'épouse de Nell Gibson fut retrouvée morte dans le parc, à une distance d'environ un demi-mile de la maison. Vêtue d'une robe de soirée, un châle sur ses épaules, une balle de revolver dans la tête. Aucune arme du crime à proximité du corps, et aucun indice permettant de désigner le coupable. Pas d'arme à proximité du corps. Watson, notez bien cela. Il semblerait que le crime ait été commis en début de soirée. Le corps fut retrouvé par un garde-chasse aux environs de 23 heures et fut examiné par la police et un médecin avant d'être transporté au manoir. Suis-je assez précis dans les faits, Watson? Oh, tout à fait précis, mais... pourquoi la gouvernante fut-elle suspectée? Eh bien, à première vue, toutes les preuves jouaient contre elle. Un revolver chargé de rebarillet auquel il manquait une balle fut retrouvé gisant sur le plancher de son armoire. Et le calibre de la balle manquante correspondait exactement à celui de la balle retrouvée dans le cadavre de l'épouse. Holmes répéta en détachant chaque syllabe. Gisant sur le plancher de son armoire. Puis il se dut d'un instant, et je sus que le cours d'un raisonnement, qu'il aurait été folie d'interrompre, occupait son esprit. Soudain, dans un sursaut, il s'extirpa brusquement de sa rêverie. Oui, Watson, un revolver fut retrouvé à cet endroit. Accablant, n'est-ce pas? Les deux jurys, successivement constitués, eurent le même verdict. En outre, il fut trouvé sur le corps de la défunte un billet signé de la main de la gouvernante, stipulant un rendez-vous à l'endroit même où le corps fut retrouvé. Que dites-vous de cela? Et enfin, il y a le mobile. Le sénateur Gibson est bel homme et possède une personnalité attirante. L'épouse décédée, qui d'autre que la jeune femme aurait été susceptible de lui succéder au bras du sénateur veuf, d'autant plus que la jeune gouvernante semblait déjà avoir reçu toutes les faveurs de son employeur, du vivant même de l'épouse de celui-ci. Amour, fortune, pouvoir, toutes ces convoitises ne tenaient plus qu'à la vie ou à la mort d'une épouse d'un âge déjà mûr. Mauvaise affaire, Watson, très mauvaise affaire.
Oui, en vérité, Holmes.
Et la jeune gouvernante n'a pas pu produire aucun alibi. Au contraire, elle a admis qu'elle se trouvait non loin du pont de Thor, là où se déroula la tragédie, aux environs de l'heure du crime. Elle ne pouvait pas nier un passant villageois y ayant aperçu.
Bien voilà qui semble la désigner coupable.
Et pourtant, Watson, et pourtant... Le pont, une simple arche de pierre à parapet, franchit dans sa partie la plus étroite une longue et profonde nappe d'eau, appelée l'étang de Thor. L'épouse fut retrouvée gisant à l'une des extrémités du pont. Voici ce que nous pouvons dire des circonstances de la tragédie. Mais, si je ne me trompe, voici votre client, cependant quelques heures d'avance sur l'heure du rendez-vous annoncé.
Billy avait ouvert la porte, mais le nom du visiteur qu'il annonça Vous étiez parfaitement étranger. Monsieur Marleau Betz n'était connu d'aucun de nous. C'était un homme menu et nerveux, aux yeux effarés, et qui manifestait des signes de contraction musculaire intempestive et des manières hésitantes. À mes yeux d'expert, cet homme me parut présenter tous les signes de la crise de nerfs imminente. « Vous semblez bien agité, monsieur Betz, » dit Holmes. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je crains de ne pouvoir cependant vous accorder qu'un court instant, car j'ai rendez-vous à 11 heures précises. »
Oh, je sais, haleta notre visiteur. Monsieur Gibson est en route. Monsieur Gibson est mon employeur. Je suis son régisseur en charge de ses affaires et de la succession. Monsieur Holmes, c'est un brigand, un véritable bandit.
Oh, voilà des accusations bien graves, monsieur Betts, dit Holmes.
Je me dois d'aller droit au but, monsieur Holmes, car le temps nous est compté. Je voudrais pour rien au monde qu'il me trouve ici. Il va plus tarder maintenant. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Son secrétaire, monsieur Ferguson, m'a informé que ce matin du rendez-vous que monsieur Gibson avait pris avec vous.
Vous avez dit être son régisseur.
Oh, plus pour longtemps, monsieur Holmes. Je lui ai remis ma démission. Dans 15 jours, je serai délivré de l'esclavage auquel je me suis soumis trop longtemps. Un homme dur, monsieur Holmes, dur pour tous ceux de son entourage. Ses libéralités et charités exercées en public ne sont qu'une façade, dissimulant ses véritables injustices. Sa femme était sa première victime. Il la brutalisait, oui, monsieur, il était brutal avec elle. Comment a-t-elle trouvé la mort? Oh, cela je l'ignore, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il lui a rendu sa vie impossible. Elle était brésilienne, vous le savez sans doute.
Ah non, je l'ignorais.
Tropicale de naissance, autant que de caractère, une enfant du soleil et de la passion. Elle l'a aimé, oui, autant qu'une femme peut aimer un homme, mais lorsque ses charmes physiques commencèrent à décliner... Je me suis laissé dire qu'étant jeune, elle était d'une rare beauté. Plus rien ne retint son époux. Nous aimions tous beaucoup, Mrs. Gibson. Nous souffrions pour elle et haïssions, M. Gibson, de la façon dont il la traitait. Il dissimule sous son apparence honnête un caractère diaboliquement rusé. Mais voilà tout ce que je voulais vous dire. Vous fiez pas aux apparences. Celles de M. Gibson sont trompeuses. Et à présent, je dois vraiment y aller. Oh non, 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 ne me retenez pas, je vous en prie. Il est sans doute déjà presque à votre porte.
Après un dernier regard apeuré jeté à l'horloge, notre visiteur se rua sur la porte et disparut en courant.
Eh bien, dit Holmes après un instant de silence, monsieur Gibson semble être entouré d'un personnel des plus loyaux. L'avertissement est cependant à considérer. « Bon, à présent, nous n'avons plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de notre client. »
Très exactement l'heure annoncée, nous entendîmes un pas lourd résonner dans l'escalier, et le célèbre millionnaire fit son entrée dans la pièce. Lorsque je posai les yeux sur lui, je compris l'inimitié et la crainte qu'il semblait inspirer à son régisseur. Je lus également sur son visage les traces visibles qui avaient laissé le monde impitoyable des affaires. Si j'avais été sculpteur et avais désiré rendre dans toute sa splendeur un homme d'affaires talentueux, au sang-froid et aux convictions tenaces, j'aurais sans nul doute choisi pour modèle M. Nell Gibson. Tout dans sa silhouette, grande et osseuse, évoquait la rapacité. Un Abraham Lincoln détourné de son idéal noble et voué à de sombres desseins. On aurait pu croire sa figure taillée dans le roc tant elle était dure, marquée et impitoyable. Des rides profondes témoignaient des multiples crises qu'il avait traversées. Ses yeux gris, ombragés par des sourcils étrangement hérissés, jetaient un regard froid mais plein du discernement le plus pénétrant. Son regard allait de l'un à l'autre de nous. Notre visiteur s'inclina de la façon la plus cordiale devant moi, lorsque Holmes me présenta à lui, puis, avec un air magistral, en parfait maître des lieux, il tira une chaise à lui et prit place si près de mon compagnon que ses genoux osseux le touchaient presque. « Permettez-moi, en guise de préambule, de vous dire, monsieur Holmes, commença-t-il, que l'argent ne représente pas le moindre obstacle dans cette affaire. Vous pouvez en demander autant qu'il vous plaira, jusqu'à en faire des confettis si cela vous chante. Cela m'est parfaitement égal pourvu qu'un peu de lumière éclaire enfin cette affaire. Cette femme est innocente et se doit d'être innocentée. Et puisqu'il est en votre pouvoir de le faire, alors je réglerai l'addition. Mes frais professionnels sont fixés par avance, par barème, répondit Holmes froidement. Je ne les revois jamais, hormis à la baisse. Eh bien, si vous êtes insensible aux billets verts, songez à votre réputation. Si vous parvenez à démêler cet écheveau, tous les journaux d'Angleterre et d'Amérique vous consacreront leurs gros titres. Vous deviendrez le héros des deux continents. Je vous remercie, monsieur Jameson, mais ma réputation se passera fort bien de cette publicité supplémentaire. Je vous surprendrai peut-être en vous apprenant que je préfère travailler de façon anonyme, car c'est le problème lui-même qui m'intéresse et non la gloire que sa résolution peut apporter. Mais nous perdons notre temps en vaines paroles. Exposez-nous plutôt de quoi il retourne. Oh, je pense que vous avez dû prendre connaissance des faits principaux par les coupures de presse. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus pour vous aider. Mais si cependant certains points vous semblent obscurs, je serais heureux d'y apporter un complément d'information.
Eh bien, il n'y a qu'un seul point.
Lequel ?
Quelle était la nature exacte de vos relations avec Miss Dunbar ?
Le millionnaire sursauta si violemment qu'il se leva à moitié de sa chaise. Mais il reprit aussitôt son calme habituel. « Je suppose que vous êtes en droit de me poser cette question, monsieur Holmes, et que vous ne faites que votre devoir. »«
Vous supposez bien, en effet, » répondit Holmes.
Eh bien, dans ce cas, je vous assure que nos relations n'ont jamais été autres que celles d'un employeur envers une jeune dame chargée de la garde de ses enfants, avec laquelle il n'avait pas pour habitude de converser autrement que par nécessité, et qui ne voyait jamais en dehors de la compagnie de ses enfants. Holmes se leva.
Je suis un homme plutôt occupé, monsieur Gibson, dit-il, et je n'ai ni le temps ni le goût des conversations vaines. Je vous souhaite le bonjour.
Notre visiteur s'était également levé, et sa haute silhouette dominait Holmes. Une lueur de fureur brillait dans ses yeux, ses sourcils étaient plus hérissés que jamais, et ses joues blêmes devinrent pourpres. « Mais que diable voulez-vous dire par là, monsieur Holmes ? Êtes-vous en train de me signifier que vous refusez mon affaire ?»«
En réalité, monsieur Gibson, c'est vous que je refuse. » Je me suis exprimé d'une manière très claire, je crois.
Oui, très claire, en effet, mais je me demande ce qui cache en réalité ce refus. L'espoir d'une surenchère de ma part, sur un prix que je suis déjà prêt à vous payer, ou la peur d'échouer dans la résolution de cette affaire? J'ai tout de même le droit de le savoir.
Oui, vous l'avez, en effet, répondit Holmes. Voici la raison de mon refus. La complexité de ce cas, telle qu'elle apparaît à prime abord, justifie que l'on se passe de difficultés supplémentaires créées par des mensonges délibérés.
Autrement dit, vous insinuez que je mens.
Oui, eh bien, j'aurais souhaité m'exprimer en des termes plus délicats, mais si vous insistez pour clarifier ma pensée, il va de soi que je ne vous contrarierai pas.
Oh, je bondis sur mes pieds et me mis en garde, en voyant le visage du millionnaire, s'empourprer dangereusement, ses poings se serrer et se tenir prêt à l'attaque. Holmes sourit nonchalamment et tendit le bras pour saisir sa pipe.
« Ne vous échauffez pas les sangs, monsieur Jameson. J'ai lu récemment dans une revue que toute contrariété
était particulièrement indigeste pour l'organisme après la prise du petit déjeuner. Puis-je me permettre de vous suggérer une bonne marche à l'air frais, suivie d'un peu de repos? Ces dispositions me feraient le plus grand bien. Non sans effort, le millionnaire parvint à maîtriser sa fureur. Je ne pus m'empêcher d'éprouver une certaine admiration devant cet homme qui avait su, par une maîtrise extraordinaire, tempérer sa fureur en ébullition et avait repris son air d'indifférence glaciale et méprisante en moins d'une minute. « Bien, c'est votre droit. Je suppose que vous savez comment mener vos affaires. Je ne peux pas vous forcer à vous occuper de vous contre votre volonté. Vous n'avez cependant pas fait preuve du plus grand discernement ce matin, monsieur Holmes, car sachez qu'il m'est arrivé de briser des hommes plus forts que vous. Personne ne s'est jamais mis en travers de ma route, jamais. On m'a déjà tenu ce même discours à plusieurs reprises, et pourtant j'ai l'honneur de me tenir ici devant vous, répondit Holmes avec un sourire narquois. « Bien au revoir, monsieur Gibson. Vous avez encore beaucoup à apprendre. » Notre visiteur fit une sortie fracassante. Holmes se contenta de tirer sur sa pipe, tout en conservant un silence imperturbable, fixant le plafond d'un air rêveur. « Unité, Watson ? » interrogea-t-il enfin. « Bien, Holmes, je dois avouer qu'en considérant que cet homme semble prêt à broyer tout ce qui se trouve sur son passage, son épouse aurait très bien pu, en devenant l'objet de son dégoût, représenter pour lui un obstacle. Comme nous l'a affirmé clairement ce Betts, il me semble que... Oui, exactement, à moi aussi. Mais à propos de ses relations avec la gouvernante, comment êtes-vous venu à les soupçonner ? « J'ai bluffé, Watson, j'ai bluffé, en constatant le ton passionné, si peu conventionnel auquel il avait eu recours dans sa lettre. J'en déduisis que l'assurance et l'apparente maîtrise de soi dont faisait preuve devant nous n'étaient qu'une façade. Une émotion profonde était centrée sur l'accusé et non pas sur la victime. Il nous fallait, si nous voulions parvenir à la vérité, percer à jour les relations qu'entretenaient entre ces trois personnages. Vous avez été témoin de l'attaque frontale que j'ai menée à son encontre, et ô combien imperturbable il est resté devant cet assaut. Alors j'ai pris le parti de bluffer, afin de lui donner l'impression que j'étais absolument certain de ce que j'avançais, alors que je n'avais pas en réalité qu'une forte présomption. Peut-être fera-t-il demi-tour et reviendra-t-il. « Cela ne fait aucun doute. Il doit revenir. Il ne peut pas laisser les choses ainsi. Ah, n'est-ce pas justement le bruit de la sonnette ? Mais oui, voilà son pas qui résonne à nouveau dans l'escalier. Eh bien, monsieur Gibson, j'étais justement en train de dire au docteur Watson que vous étiez légèrement en retard. »
Le millionnaire venait de pénétrer à nouveau dans la pièce, manifestement animé de meilleurs sentiments que lorsqu'il l'avait quitté. L'orgueil blessé de l'homme se lisait encore dans ses yeux furibonds, mais le bon sens qu'il possédait lui avait sans doute clairement laissé entrevoir qu'il devait céder s'il voulait parvenir à ses fins. « J'ai réfléchi, monsieur Holmes, vous voyez, je sens que je me suis précipité en prenant trop à cœur vos remarques. » Vous êtes de votre droit en me demandant de vous justifier les faits, quels qu'ils soient, et je vous en estime davantage. Mais je vous assure cependant que les relations que Miss Bunbar et moi-même entretenions n'ont aucun lien avec cette affaire.
Oh, quant à cela, c'est à moi d'en décider, ne croyez-vous pas ?
Oui, en effet, du moins je le suppose. Tel un médecin... Vous devez de prendre en compte chacun des symptômes du malade avant de pouvoir établir votre diagnostic.
Exactement. Cette métaphore convient à merveille. Et seul le patient, cherchant à tromper son médecin dans un but précis, tairait certains de ses symptômes.
Sans doute, monsieur Holmes,
mais reconnaissez que la très grande majorité des hommes gardent une certaine réserve quand il s'agit d'évoquer les relations qu'ils entretiennent avec une femme, lorsque les sentiments entrent en jeu, j'entends. Je gage que la plupart des hommes conservent de petits jardins secrets dans un coin de leur âme, dans lesquels ils ne tolèrent aucun intrus. Mais vous, vous pénétrez dans ces espaces réservés avec tant d'impudence. Le motif de votre intrusion est cependant valable, puisque vous tentez de la sauver. Bien, les barricades sont tombées, les défenses sont volées en éclats. Mon cœur vous est ouvert. Que voulez-vous savoir? Mais la vérité... Le roi de l'or marqua une pause, durant laquelle il me sembla rassembler ses esprits. La tristesse et la gravité de son sinistre visage, aux traits marqués, s'étaient encore accentués. « Bon, je peux vous la livrer tout entière en quelques mots, monsieur Holmes, » dit-il enfin. « Il existe des choses si douloureuses qu'elles en deviennent difficiles à dire, c'est pourquoi je ne me perdrai pas en détails inutiles. Je rencontrai mon épouse alors que je cherchais de l'or au Brésil. Maria Pinto était fille d'un fonctionnaire du gouvernement de Manaus. Elle était d'une grande beauté. À cette époque, j'étais certes jeune et plein d'ardeur, mais même encore aujourd'hui, lorsque je me remémore ces instants avec du recul et un œil critique, je la revois d'une beauté rare et somptueuse. Sa nature était riche, passionnée, entière, tropicale, impulsive, tout autre en somme que celle des Américaines que j'avais connues jusqu'alors. Enfin, pour résumer en quelques mots une bien longue histoire, j'en tombais amoureux et j'épousais. Ce ne fut que quelque temps après que la passion atténuée, oh, elle avait cependant duré pendant des années, je réalisais que nous n'avions strictement rien en commun. Et mon amour s'évanouit. Si le ciel avait fait autant, il ne fait aucun doute que les choses eussent été plus simples. Mais vous connaissez la nature délicieuse des femmes. Rien de ce que je fis ne réussit à la détourner de moi. Si je me montrais jamais dur, voire grossier, au dire de certains, à son égard, ce ne fut dans le but que de la forcer à ne plus m'aimer, parce que je savais au plus profond de moi que si je parvenais à éteindre l'amour qu'elle me portait, les choses seraient plus simples pour elle comme pour moi. Mais rien n'y fit. Elle m'aima tout autant sur le sol d'Angleterre qu'elle m'avait aimé sur les rives de l'Amazone, et quoi que je fis, son attachement restait intact. C'est alors que je fis la rencontre de Miss Grace Dunbar. Elle avait répondu à notre annonce et nous l'avions engagée en tant que gouvernante pour nos deux enfants. Peut-être avez-vous vu son portrait dans les journaux. Elle était magnifique, personne au monde n'aurait pu dire le contraire. Oh, je ne vais pas me prétendre plus gentleman que je ne le suis. Et je vous avoue volontiers que je ne puis vivre sous le même toit qu'une telle beauté, tout en devant entretenir un contact quotidien avec elle, sans lui adresser de temps à autre des regards passionnés. Dois-je être blâmé pour cela, monsieur Holmes? Mais je ne vous blâmerai pas d'avoir éprouvé des sentiments, vous me blâmerez de les avoir montrés, dans la mesure où cette jeune personne se trouvait sous votre protection. Bon, vous avez sans doute raison, dit le millionnaire, après que les éclairs que ce reproche avait allumés dans son regard se fussent dissipés. Non, je ne cherche pas à paraître meilleur que je ne le suis. Toute ma vie, je n'ai eu de cesse de tendre la main vers les choses que je désirais le plus, et je n'ai jamais rien désiré de plus que cette femme et son amour. Alors, je le lui ai dit. Comment cela vous lui avez dit? Holmes pouvait paraître très impressionnant quand il était ébranlé dans ses principes. Bien, je lui ai dit que si je ne l'avais pas pu, si j'aurais épousé, mais que cela m'était tout à fait impossible. Je lui ai dit que l'argent n'était pas un problème, et que tout ce qui pourrait la rendre heureuse et assurer son confort serait immédiatement entrepris sans hésitation. Voilà qui était extrêmement généreux de votre part, dit Holmes dans un sourire ironique. Ah, une minute, monsieur Holmes. Je vous rappelle que je suis venu vous voir pour vous demander de résoudre une enquête, pas pour que vous me fassiez un cours de morale. Je me passerai volontiers de vos sarcasmes. Dans ce cas, sachez que c'est uniquement par égard pour la jeune lady que j'accepte de mener cette enquête, répondit Holmes sévèrement. Quel que soit le crime dont elle est accusée, il est sans doute bien moindre que celui que vous venez d'avouer, à savoir avoir tenté de vous attirer par l'argent les faveurs d'une jeune femme sans défense ni protection qui se trouvait à votre merci sous votre toit. Certains individus possédant votre richesse devraient apprendre que le monde entier ne saurait être soudoyé dans le seul but de voir le moindre de leurs désirs exaucés et la moindre de leurs fautes excusées. À ma grande surprise, le roi de l'or accueillit cette réprimande sans sourciller. Voilà exactement ce que me disent à présent que la situation est ainsi. Je rends grâce au ciel que tout ne se soit pas passé comme je l'avais d'abord souhaité. Elle ne voulut pas entendre parler d'argent, et son premier mouvement fut d'ailleurs de vouloir quitter la maison immédiatement. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Eh bien, en premier lieu, parce que ses gages aidaient à vivre ses proches, et qu'en cela, elle se serait sentie coupable de les sacrifier à ses principes. Lorsque j'eus juré, car je le fis, de ne plus jamais la poursuivre de mes assiduités, elle consentit à rester. Mais il y avait une autre raison. Elle était consciente de l'influence qu'elle pouvait exercer sur moi, et elle souhaitait se servir de cette emprise à bon escient. De quelle manière exactement? Eh bien, elle était au courant de quelques-unes de mes affaires. Elles sont d'importance, monsieur Holmes, d'une importance qui les situe bien au-delà de l'imagination populaire. Je puis faire autant que défaire, et bien souvent je défais. Oh, il ne s'agit pas que d'hommes, il s'agit de communautés, de villes, parfois même de peuples. Les affaires sont un jeu dangereux, dans lequel il n'y a aucune place pour les faibles. J'ai joué tant que j'ai pu, sans jamais me plaindre et sans jamais me soucier des plaintes des autres. Mais elle entendait leurs plaintes, et je suppose qu'elle avait raison. Elle croyait et disait que la fortune d'un seul homme, qui représentait plus pour lui que ce qu'il n'aurait jamais pu dépenser, ne devait pas être bâtie au prix de la misère de dizaines de milliers d'autres hommes. C'était son point de vue, et je compris que, pour sa part, elle aurait volontiers sacrifié des milliers de dollars à des causes justes. Elle s'aperçut que je prêtais une oreille attentive à ce qu'elle disait, et elle crut pouvoir servir le monde en influençant mes actions. Alors elle décida de rester, et il en advint ce que nous savons. Mais n'y aurait-il pas, à ce sujet, quelque chose qui n'aurait pas été relaté par les journaux? Le roi de l'or réfléchit durant quelques minutes, la tête entre les mains, perdu dans ses pensées. Oui, les apparences sont contre elle, je ne peux pas le nier. Certaines femmes ont une seconde nature qu'elles enfouissent si profondément en elles qu'elles dépassent parfois l'entendement d'un homme. Je fus tout d'abord si surpris que je fus ébranlé dans mes convictions et fus tenté de croire qu'elle avait été poussée dans ses retranchements et amenée à commettre cet acte pourtant si contraire à sa nature profonde. La première explication qui me vint à l'esprit fut celle que je vais vous livrer, monsieur Holmes, si tant est qu'elle vaille quoi que ce soit. Il ne fait aucun doute que mon épouse était d'une jalousie maladive. Ah, la jalousie morale est tout aussi redoutable que la jalousie physique. Et bien que mon épouse n'eût aucune raison de se sentir trahie, cela aussi elle le savait. Elle avait parfaitement saisi l'influence que cette jeune Anglaise était susceptible d'exercer sur mon esprit et mes actes, d'autant plus qu'elle-même n'avait jamais été en mesure d'y parvenir. C'était l'influence du bien, mais cela ne changeait rien à son sentiment de jalousie. Folle de rage, son sang d'amazonienne bouillonnant, elle pouvait avoir projeté d'assassiner Miss Dunbar, ou tout au moins de la menacer avec une arme au point de l'effrayer jusqu'à l'amener à nous quitter. Ensuite, il aurait pu s'en suivre une bagarre, et le coup du pistolet serait parti, se retournant contre celle qui tenait l'arme. « C'est une hypothèse qui m'est venue à l'esprit, » dit Holmes. « Elle est en effet la seule alternative à l'hypothèse du meurtre prémédité. » « Mais elle la réfute tout autant. »« Cependant, ne l'écartons pas encore, voulez-vous. Chacun peut comprendre qu'une femme placée dans une position si délicate se soit précipitée chez elle en oubliant dans sa course qu'elle tenait encore le revolver. Elle aurait très bien pu le jeter au milieu de ses vêtements, sachant à peine ce qu'elle faisait, et lorsque l'arme du crime aurait été découverte, elle aurait pu tenter de nier totalement, puisque livrer l'entière vérité lui était impossible. Qu'avons-nous contre une telle supposition? Mais Miss Dunbar en personne. Oui, peut-être. Holmes consulta sa montre. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous puissions obtenir les mandats nécessaires dans le courant de la matinée. Nous pourrons rejoindre Winchester par le train du soir. Lorsque j'aurai pu rencontrer cette jeune lady, il est fort possible que je puisse vous être d'une certaine utilité dans votre affaire, bien que mes conclusions puissent vous décevoir dans vos attentes.